Je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible ou votre application mobile en mode silencieux. Nous allons méditer un texte qui se trouve dans la première épître de Pierre, un texte que je n'ai pas choisi, je dois vous le dire, mais qui me semble tomber à point nommé pour la thématique de ce matin, la charte relationnelle ou l'idée d'avoir des relations constructives et saines. Alors pour ceux qui nous visitent, peut-être pour la première fois, ils entendent ce mot « vitalité » un peu étrange. Vitalité, c'est simplement ce parcours où toute notre Église veut se mettre en humilité devant Dieu le Père et se poser la question, au fond, est-ce que nous sommes une Église en bonne santé ? Et où est-ce que nous en sommes dans notre vocation missionnaire ? Et il y aura cette grande étape du 11 janvier, avant ça, il y a eu cette 11 juin, je suis déjà dans l'année prochaine, hein. Le 11 juin, et donc nous avons eu aujourd'hui la charte relationnelle, alors qui est l'idée d'avoir des relations saines et constructives, d'abord autour de ce parcours vitalité, mais un petit peu plus loin. Vous allez voir que ce texte qui nous est proposé à notre méditation ce matin n'est pas sans résonance. 1 Pierre 3, versets 15 à 18. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect. Et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Amen. Je voudrais vous inviter à prier un instant. Ô Dieu et Père, merci pour ta parole qui est lampe sur notre sentier. Seigneur, conduis-nous maintenant à méditer ta parole, à nous en nourrir. Édifie-nous, instruis-nous, corrige-nous pour que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique ces directives, cette parole que tu nous consacres et que tu nous donnes ce matin. Amen. Vous le savez peut-être, Pierre ne s'adresse pas à une église qui fait du tourisme, mais plutôt une église qui connaît des oppositions, des petites luttes, par-ci, par-là, des souffrances. Et Pierre leur dit simplement, soyez vous-même, soyez église. Mais il va un petit peu plus loin. Il dit, soyez une église missionnaire, là où vous êtes, y compris dans la souffrance. Pierre, merci, mais dis-nous comment être une église missionnaire. Et je crois qu'il nous donne trois pistes de réflexion, trois pistes de méditation que je vous invite à suivre avec moi. Le premier, être une église missionnaire, c'est consacrer le Christ comme Seigneur dans notre cœur. Et ça va nous poser la question de qu'est-ce qui est notre guide à l'intérieur, là ? Qu'est-ce qui oriente ma vie ? Quelle est la priorité ? Deuxième point, Pierre nous dit « Soyez une église missionnaire en étant prêt à défendre votre espérance. » Et là, ça va nous poser la question de « Où est-ce qu'on en est dans notre témoignage d'église ? Ai-je conscience même qu'une église a une mission particulière ? Combien de mes voisins, amis, famille, savent, connaissent mon attachement au Christ. Suis-je prêt à donner un peu de moi-même, beaucoup de moi-même, pour que l'Évangile soit annoncé, même s'il doit m'en coûter ? Le service chrétien, chers amis, vous le savez, n'est pas que pur plaisir. Il est service pour Dieu et service pour le prochain, avant d'être self-service. Troisième point, soyez une église missionnaire, et là, ça peut faire un petit peu mal, en soignant votre conduite et vos relations. Et là, ça va nous poser la question de comment je vis, comment je parle, comment j'agis dans l'église, mais aussi à l'extérieur. Suis-je témoin de l'évangile ? Oui, par ma bouche, c'est super, j'ai des grands témoignages, mais ma conduite et mon comportement disent autre chose. Est-ce que les autres voient à travers moi l'évangile de grâce du Christ ? Voilà, trois points que je vais égrener bien modestement devant vous. Et dans la première, soyons une église missionnaire en consacrant le Christ comme Seigneur dans notre cœur. Un homme, un jour, avait acheté une maison, superbe maison, avec un arbre, bon, assez commun. Il était en hiver, donc il n'avait pas grand-chose sur lui. Mais l'homme qui a acheté cette maison s'attendait à avoir au moins des fleurs, si ce n'est des fruits. Un jour, au printemps, voilà que des jolies petites fleurs roses poussent dans cet arbre. Mais avant qu'il ait eu le temps de s'en réjouir, le vent du printemps est arrivé et a emporté ces petites fleurs. Quel désordre ! Il y en avait partout sur son jardin. Lui qui s'était appliqué à le tondre, à que ce soit bien carré, voilà que cet arbre-là lui cause bien du désagrément. Un petit peu plus tard, il y a des petites choses vertes qui poussent, assez grandes. Alors il se réjouit de voir ces potentiels fruits qu'il va pouvoir déguster bientôt. Mais, un peu gourmand, il en prend un morceau et le croque et se résout à le cracher. Tellement le fruit était amer et pas bon. Alors, un peu dépité, l'homme a pleuré et s'est dit « C'est horrible cet arbre-là, il ne sert à rien. » Au prochain hiver, c'est décidé, je le coupe. Mais l'arbre n'a pas entendu la menace. A continué de puiser l'eau et les sels minéraux. A continué de bénéficier du soleil. Et voilà qu'à l'automne, il a donné des belles pommes, bien goûteuses, bien juteuses. Chers amis, il nous faut bien avouer que nous sommes bien souvent comme cet arbre, n'est-ce pas ? Bien fragile, parfois un petit peu amer. Au moment où Dieu vient à notre rencontre, nous sommes parfois comme cet arbre-là qui, planté au milieu de rien, nous semble bien fragile, sans fruits. Mais contrairement à cet homme, il y a quelque chose qui est différent, c'est que Dieu ne veut pas forcément nous couper au prochain hiver. Ça, c'est une bonne nouvelle, et j'espère que ça vous réjouit. Mais bon, Dieu nous invite tout de même à porter du fruit, n'est-ce pas ? Vous le connaissez. Et porter du fruit, ça commence par poser les racines au bon endroit, à être à la bonne place et à puiser aux bonnes ressources. Et qui est-ce qui est à notre racine, à nos racines ? Qui est-ce qui est au fondement de notre vie, si ce n'est Dieu ? Sanctifiez le Christ, dit Pierre. Consacrez-lui, plongez vos racines dans la relation que vous avez avec lui. Consacrez-le comme Seigneur de votre vie, qu'il prenne donc la première place. C'est ce que nous dit Pierre. Et si nous laissons Jésus prendre racine dans l'arbre de notre vie, si Jésus est véritablement Seigneur de notre vie, et pas seulement avec la bouche, mais dans notre être tout entier, alors même aussi tordus que nous soyons comme arbre, aussi desséchés et peu fructueux, si Jésus est véritablement Seigneur de notre vie, alors à coup sûr, on va connaître un nouveau printemps, un temps de rafraîchissement, de transformation intérieure. Et ça, c'est Vitalité qui nous interroge sur cette question-là. Où est-ce que vous en êtes dans la consécration en tant qu'Église ? Un temps de nouveau printemps, comme aujourd'hui. Pourquoi ? Non parce que nous l'aurons mérité, parce que nous avons donné des bons fruits, des belles feuilles, mais parce que le Christ sera Seigneur de notre vie. Une église missionnaire, c'est donc une église qui prie, que ton nom soit sanctifié. Vous la connaissez, cette parole du Notre Père, hein, que l'on dit parfois assez rapidement. Une Église qui prie que ton nom soit sanctifié, mais qui le vit dans son fort intérieur. Une Église missionnaire, c'est une Église qui a soif de la grâce de Dieu, de s'y abandonner. Une Église missionnaire, c'est une Église qui se lève pour prier. Pas seulement qui manifeste par la bouche sa vie en Christ, mais qui se lève pour dire « Oui, le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur dans ma vie. Il a la première place. » Malheureusement, il nous faut bien reconnaître que trop souvent, dans nos églises, pas à Meulan, bien sûr, hein, nos priorités ne sont pas toujours celles de Dieu. Combien de fois désertons-nous les réunions de prière, les études bibliques, les réunions d'église, tous ces rendez-vous que nous posons avec Dieu sur nos agendas, faute d'envie, faute de temps, faute de motivation. Mais Pierre, je crois, nous adresse un appel, un conseil, également en forme d'avertissement, je crois. Consacrez le Seigneur dans votre vie, dans votre cœur. Cultivez le privilège de cette relation avec Dieu. Au bon moment, comme au mauvais moment. Lorsque la tempête viendra, peut-être alors, vos branches vont être chahutées. Vous perdrez peut-être des feuilles ou des plumes. Mais il y a une chose qui ne changera pas. C'est la présence de Dieu aux racines de votre arbre. Vous ne vaillissirez pas à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que vous aurez consacré, vous aurez puisé en Dieu vos racines. Et combien nous pouvons confesser que si souvent, Dieu n'est pas à la première place de notre vie. Deuxième point, soyez une église missionnaire en étant prêt à défendre votre espérance. La sanctification se traduit aussi par la conduite, mais aussi par nos paroles. Je vous relis le verset 15 de l'exhortation de Pierre. « Soyez de temps à autre, quand vous avez le temps ou l'envie, prêts à présenter votre défense devant celui bon qui vous semblera le plus disposé ou le plus aimable, le plus ouvert, qui vous demande à demi-mot de rendre compte de votre espérance. » Est-ce cela que Pierre nous dit ? Il ne me semble pas. Là encore, une exhortation sous forme de conseil, pas dans un esprit de culpabilité, nous dit Pierre, mais il nous place devant Dieu, en Église. Et il nous dit, si vous êtes une Église qui brûlait de la présence du Christ, si, imaginons que vous soyez une Église qui ouvrait vos portes, une Église qui sortait de vos murs, vous aurez certainement des moments où des personnes vont vous questionner, vous donner des réflexions, faire des remarques. Parfois, les personnes seront bien disposées, parfois d'autres seront un petit peu plus cyniques, voire agressives. Qu'importe, dit Pierre, il vous faut toujours, toujours être prêt. Faisons un peu de science-fiction. Imaginons qu'à Meulan, nous vivions en vase clos. C'est pas vrai, hein ? C'est la science-fiction. Qu'on sorte jamais de nos murs pour témoigner de notre foi. Il est de fortes chances que nous n'ayons pas à rencontrer ce que Pierre nous dit là. Nous n'ayons pas à défendre notre foi. Remarquez qu'il n'est pas dit attaquer, hein, mais défendre votre espérance. Peu de chance qu'un individu, qu'un inconnu, nous pose la question « Mais parle-moi de ton Jésus. Pourquoi tu parles d'une croix ? Oh, tu me parles d'un Dieu bon, bien sûr, mais regarde la souffrance dans ce monde. » Peu de chance que nous ayons besoin de répondre à ces questions-là. Mais sommes-nous alors dans le projet de Dieu pour son Église ? Si nous bouillonnons, chers amis, d'amour pour le Christ, si nous laissons l'Esprit Saint jaillir en nous et nous remplir, alors l'Église, qui est d'abord un rassemblement de croyants, n'est-ce pas, avant d'être un bâtiment, alors on ne pourra que être poussé à partager la vie du Christ autour de nous. Certes, des questions ou des remarques vont jaillir. On en a eu en étude biblique, on a échangé jeudi sur des remarques qui étaient faites à l'une ou l'un d'entre nous. « Oh, mais toi, en tant que chrétien, tu ne vis pas. » Autrement dit, tu ne sais pas vivre. Ta vie est faite d'interdits. Fais ceci, fais pas cela. Mais est-ce cela, la véritable vie chrétienne ? Fais pas ci, fais pas ça. Vous connaissez la chanson ? Je ne crois pas. La vie chrétienne, c'est une vie où jaillit l'Esprit Saint. La vie chrétienne, c'est une personne qui simplement, qu'elle soit fragile ou tordue comme un arbre, a pris conscience de son besoin du Christ et le place à la première place dans sa vie. Cela étant dit, qu'est-ce que nous devons faire si on nous pose des questions sur notre espérance ? Qu'est-ce que nous dit Pierre ? Il nous dit « il faut fuir ». Non ? Non. Il nous dit être prêt. Oh, pas de temps en temps, mais toujours. Être toujours prêt à défendre notre espérance. Ce qui suppose une préparation. C'est un peu de la palissade. Pour être prêt, il faut une préparation. Est-ce qu'un avocat prépare sa défense au petit bonheur la chance ? Un avocat va étudier son dossier, questionner son client, recueillir quelques témoignages, préparer sa belle plaidoirie pour être prêt le jour J lorsqu'il aura à défendre son client. Et pour nous, Église, qu'est-ce que cela veut dire qu'être prêt ? Prêt à défendre notre espérance. Il me semble que cela suppose de toujours avoir conscience que cette préparation est d'abord spirituelle. Elle suppose le préalable de la consécration au Christ dans nos cœurs et en Église. Autrement dit, prier, méditer, étudier la parole, des choses que l'on connaissons bien, cultiver une relation avec Dieu, quotidienne, non pas parce qu'il le faut, parce que je le dois, mais parce que le Seigneur est là, parce qu'il nous aime. Peut-être serons-nous appelés aussi à suivre des formations spécifiques. Peu importe, en tout état de cause, il nous faut être prêts, nous dit Pierre, être prêts. Et cela suppose une préparation personnelle, individuelle peut-être, mais aussi en Église. Et une invitation peut-être à réfléchir à notre façon de faire, façon d'être. La façon dont nous parlons parfois, notre jargon, parfois un peu opaque. Être prêt, c'est peut-être aussi réfléchir à présenter notre espérance de façon pertinente. Ce qui suppose de bien connaître les personnes qui sont autour de nous. On ne va pas, me semble-t-il, hein, sauf erreur de ma part, proposer un atelier de bougies à des jeunes étudiants dynamiques pour entrer en relation avec eux. Manu me dit que si, mais Manu est un cas à part. On ne va pas installer un beau skatepark en plein milieu d'une maison de retraite pour introduire une relation avec ces personnes. Alors, c'est des caricatures, n'est-ce pas ? Mais ça nous invite à réfléchir à la pertinence de notre message, mais surtout à la pertinence de la façon dont nous allons l'apporter à ceux qui nous entourent. Et ça, c'est tout le défi de Vitalité, nous accompagner dans cette réflexion. Troisième point, et le dernier, une église missionnaire. Soyez une église missionnaire en soignant votre bonne conduite et vos relations. La bonne conduite chrétienne, n'est-ce pas ? Le masque du dimanche matin, le beau sourire, alors qu'à l'intérieur, ça va pas. Ça va ? Oui, oui, ça va, t'inquiète pas. La bonne conduite. Pierre nous présente aussi cette façon de nous défendre notre espérance, mais aussi de cultiver notre relation avec douceur et respect. Respecter devant Dieu parce que nous sommes ses ambassadeurs et lorsque nous nous adressons à des personnes qui nous entourent, nous le représentons. Douceur, humilité. Oh, il ne s'agit pas d'être parfait, mais simplement d'avoir une conscience pure devant Dieu, d'être intègre devant lui et de vivre de son amour et de sa grâce. L'appel à sanctifier le Christ, à se consacrer, ça doit se voir, nous dit Pierre, dans votre bonne conduite, dans votre sensibilité à l'autre. Pierre nous place, chers amis, devant notre responsabilité, nos responsabilités. Comment je m'adresse à mon frère ou à ma sœur quand je ne suis pas content avec lui ? C'est bien, nous dit Pierre, d'être pertinent dans votre témoignage. C'est super. Mais qu'en est-il de vos relations, de votre conduite ? Vous le savez certainement, une des cibles privilégiées de l'ennemi, ça peut être nos points de vue théologiques, nos belles stratégies, notre façon de témoigner, mais s'il veut être efficace et rapide, il va juste souffler la discorde entre deux frères et sœurs et laisser la mayonnaise monter tranquillement, en soufflant de temps en temps la suspicion à l'oreille de l'un ou de l'autre. Chers amis, dans nos relations, cette bonne conduite, ces bonnes relations ne découlent pas d'un bien-agir, de « il faut faire ceci ou il faut faire cela », mais de la consécration de nos vies au Christ. Alors, quels sont les contours de cette bonne conduite, à part le silence, le sourire du dimanche matin ? Voici ce que la Bible nous dit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Bref, la bonne conduite, c'est le fruit de l'Esprit dans son Église. Alors, pour être une église en bonne santé, il s'agit de ne pas se prendre le chou pour des cacahuètes. Il s'agit de ne pas prendre son prochain pour une bonne poire, mais être bienveillant, y compris s'il vous court sur le haricot. Il s'agit de ne pas avoir artificiellement la banane le dimanche matin, mais être sincère. Il s'agit d'éviter la pomme de la discorde ou d'être acide comme un citron dans nos paroles. Ou bien encore, il s'agit de refuser de donner des châtaignes à tout va. Une église missionnaire, c'est finalement une église qui accueille et accompagne quiconque. Que vous n'ayez pas un radis ou que vous ayez plein d'oseille, que vous soyez haut comme trois pommes ou grand comme une asperge, que vous ayez une tête de chou, des oreilles en feuilles de chou, des yeux en amande, que vous ayez les cheveux poils de carotte ou que vous soyez habillé comme un oignon, que vous portiez un chapeau melon, que vous ayez un pois chiche dans la tête, que vous soyez un peu courge ou bête comme chou, que vous ayez ce dimanche la patate, la pêche, ou que vous soyez dans les pommes cuites, que vous ayez envie de vous fendre la poire, ou que vous soyez triste comme un menhir. Ah, c'est pas un fruit, ça. Finalement, une église missionnaire, c'est une église dont les membres évitent de raconter des salades, sont capables de faire le poireau, et ne cherchent pas à tout prix à ramener leurs fraises. Des personnes qui n'ont pas le melon, mais au contraire sont humbles, acceptant, comme Jésus nous y invite, à être des bouts de choux. Une église missionnaire est une église où les membres sont aux petits oignons, les uns pour les autres, sans trop s'occuper de leurs oignons, justement. Ils sont au service les uns les autres, les uns pour les autres, non pas en marchant au bâton et à la carotte, mais comme s'ils travaillaient pour des prunes. Une église missionnaire est une église où les membres cheminent les uns avec les autres sur le chemin de la sanctification, sans appuyer sur le champignon, en respectant le rythme de chacun. Une église missionnaire est une église qui vit de l'amour du Christ, par l'amour du Christ. Un amour qui va au-delà d'un cœur d'artichaut. Un amour inconditionnel, qui ne nous fera peut-être pas forcément tomber dans les pommes, ni rougir comme une tomate, mais un amour qui donne et qui se donne. Une église missionnaire est une église qui vit de et par son espérance. Une église missionnaire, c'est une église où les membres ont conscience et confiance que lorsque ce sera la fin des haricots, lorsque les carottes seront cuites, lorsqu'il nous faudra manger les pissenlits par la racine, la vie du Christ rejaillira pour la vie éternelle. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Vous l'avez bien compris, chers amis, avec cette tirade fruitée, légumineuse et un peu, j'espère, fructueuse, il me semble, chers amis, que Pierre nous invite à une bonne conduite qui est d'abord le fruit de l'Esprit en nous. Il nous invite à nous parler, à échanger, à prendre soin les uns des autres, en mesurant notre responsabilité, mais en puisant dans la présence du Christ en nous, par son Esprit. Alors, chers amis, une question, que vous soyez arbre tordu, desséché, ton fleur de l'âge, une question, ce matin. Est-ce que nous allons laisser le Christ, le jardinier céleste, faire son œuvre en nos cœurs et dans notre Église? Amen.